franceinter.fr. La une du climat. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et le pôle Nord, anormalement doux en cette fin d'année, des températures comprises entre 0 et 2 degrés le 30 décembre dernier. C'est beaucoup évidemment pour cette région du monde et c'est à la une de la science.
L'air chaud remonte vers le nord jusqu'au Spitzberg et ensuite il contourne le Groenland par le nord et arrive au pôle Nord.
Quand il fait chaud en surface, la glace se transforme en eau et quand elle regèle, toute la couche ne se reforme pas l'hiver suivant. La glace n'est pas aussi épaisse. Quand la chaleur revient, elle fond encore plus et il y a encore moins de glace l'année suivante.
Avec donc des températures extrêmes supérieures d'au moins 20 degrés au normal de saison. Voilà comment s'est terminée l'année au pôle Nord. Plus largement, l'étude du réchauffement de l'Arctique est au centre des préoccupations des climatologues. David Salas-Simelia, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes climatologue pour Météo France, vous êtes en direct de Toulouse. Et puis Hervé Kempf, journaliste pour le site Reporter, partenaire de notre Une tous les lundis. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
La dépression exceptionnelle, justement Hervé Kempf, à l'origine de cette anomalie au pôle Nord, s'est fait sentir sur tout le continent nord-américain.
Oui, tout à fait. Il y a eu des tornades et des inondations meurtrières aux États-Unis. Le Canada avait un temps anormalement chaud du côté de Montréal.
15 degrés, je crois, c'est ça.
15 degrés, alors que normalement, il fait moins de degrés, nettement. Mais ça n'était pas seulement en Amérique du Nord. Il y a eu aussi l'Amérique latine qui a connu des inondations historiques autour du Paraguay, avec les pays du Paraguay, de l'Uruguay, de l'Argentine qui ont été affectés. Et puis, loin de là, des feux de forêt très importants en Australie. Ouais. Et puis aussi, en Europe, des inondations très très grave au nord de l'Angleterre et en Écosse, et bien sûr en France, mais ça on s'en souvient, un été et un Noël exceptionnellement doux.
David Salas-Simelia, est-ce qu'il faut faire un lien direct en ce qui s'est passé en Amérique du Nord, on va rester en Amérique du Nord, et le réchauffement climatique global?
Ah, je dirais effectivement que la première chose à rappeler, c'est qu'il y a un contexte de fond qui est le contexte du réchauffement climatique en cours depuis le début du XXe siècle. Bon, je dirais que cet événement assez emblématique de pôle Nord à 2 degrés le 30 décembre est en fait finalement la conclusion d'une année globalement très très chaude sur l'Arctique. 3 degrés pour 2015 au-dessus de la moyenne du XXe siècle, c'était d'ailleurs l'année la plus chaude jamais observée sur l'Arctique.
Et quelles sont les explications météorologiques de ce phénomène et de cette vague de chaleur vers l'Arctique ?
Alors là, en fait, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'une tempête donc provenant du sud, une tempête relativement chaude, a balayé l'Arctique, ce qui a expliqué en fait une hausse très très rapide des températures. Il faisait moins 37 degrés 2 jours avant cet événement.
Est-ce qu'on peut dire que le Niño a joué un rôle essentiel justement dans ce phénomène climatique particulier, David Salas-Simelia ?
On peut pas être forcément aussi catégorique que ça. Les événements qui ont été cités par Hervé, notamment sur les Amériques, globalement, peuvent être pour la plupart reliés à El Niño. Sur l'Amérique du Nord, bon, on estime que la partie ouest du Canada, donc qui est très chaude en fait, ça c'est dû effectivement à El Niño. C'est un petit peu moins clair sur la partie est, donc sur le Québec, mais on ne peut pas exclure à ce stade que El Niño soit en partie le coupable au niveau de cette tempête.
Hervé Kempf, il y a d'autres résultats plus larges qui ont été publiés fin septembre et qui, eux, laissent aucun doute sur l'influence du réchauffement climatique.
Oui, tout à fait. En fait, c'est même en décembre que la NOAA, la National Ocean et Atmospheric Administration des États-Unis, a publié son rapport annuel sur l'Arctique. Et le tableau est grave, puisque ça témoigne d'un réchauffement. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne. Les spécialistes de la NOAA enregistrent en moyenne une augmentation de la température de 3 degrés par rapport au début du XXe siècle. L'extension de la banquise est de moins en moins grande de décennie en décennie. Et oui, on a même observé cette année une fonte de la couche glaciaire en superficie du Groenland plus importante que d'habitude.
Et David Salas-Simelia, il faut bien faire la différence entre la banquise et la glace terrestre en Arctique.
Ah oui, tout à fait. La banquise, en fait, désigne l'océan qui gèle à sa surface. Donc, c'est une glace qui est légèrement salée, parce qu'elle provient donc de la congélation de l'eau de mer, et qui fait quelques dizaines de centimètres à quelques mètres en Arctique ou autour de l'Antarctique, donc sur les océans. Il ne faut pas confondre cette banquise avec les calottes glaciaires sur l'Antarctique ou sur l'île du Groenland. Donc ce sont des glaces continentales qui se forment par accumulation année après année de la neige qui se transforme en glace. Et cette glace-là, elle, fait 2 à 3000 mètres d'épaisseur. Hein. Donc ce sont deux choses extrêmement différentes.
Alors justement, David Salassimilia, certains de vos collègues américains ont estimé que l'été 2016 pourrait voir pour la première fois une disparition complète de la banquise dans l'Arctique. Vous partagez cet avis ?
Non, je pense pas en fait qu'on puisse réellement partager cet avis compte tenu de l'état actuel de la banquise. Alors ça, effectivement, c'était quelque chose que certains chercheurs affirmaient en 2012, après l'examen des records successifs de faible couverture de glace sur l'océan Arctique de 2007 et 2012. Effectivement, en prolongeant cette tendance, on pouvait effectivement avoir l'impression qu'en 2016, la banquise aurait complètement disparu. Alors en été, hein, il faut le préciser, parce qu'en hiver, la banquise est toujours bien présente.
Oui.
On ne peut pas procéder de cette façon-là, en fait. Hein. On ne peut pas extrapoler des variations aléatoires en partie pour conclure à ce résultat-là.
Est-ce qu'on peut quand même imaginer des conséquences d'une fonte importante des glaces de l'Arctique ?
Alors ça, je dirais, c'est encore l'objet de débats au niveau de la recherche, parce qu'effectivement, on a pu constater sur certains cas de faible couverture de banquise sur l'océan Arctique, on a pu constater que au cours de l'hiver qui suit, eh bien, on a des vagues de froid qui balayent le nord de l'Amérique ou la Sibérie, voire une partie de l'Europe, hein, comme ça a été le cas, par exemple, en 2012. En Europe, mais en fait, ce type de résultat n'est pas encore très très affirmé parce que il y a des années où finalement ça se passe pas comme ça, où les modélisations climatiques, donc des modélisations au moyen de informatique, ne permettent pas toujours de conclure à ce type de résultat. Donc il faut rester prudent là-dessus.
Bon, douceur exceptionnelle également en France, hein, David Salassimilia. Mais l'hiver n'est pas fini, on peut encore s'attendre aussi à une vague de froid, non ?
Oui, effectivement. Donc, les prévisions saisonnières indiquent que l'hiver, dans sa globalité, donc pour les météorologues, de décembre jusqu'à février, devrait être encore un hiver relativement doux. Décembre qui vient de se terminer a été 4 degrés au-dessus de la normale, c'est-à-dire battant largement les records précédents de 1934 et 2000. L'hiver n'est pas terminé, mais un hiver doux dans sa globalité n'exclut pas une vague de froid ponctuelle sur une ou deux semaines en janvier ou février. Et pour l'instant, rien en vue.
Merci en tout cas pour cet éclairage sur cette douceur exceptionnelle en Arctique. David Salassimilia et puis Hervé Kempf, bien sûr, reporter.net pour toute l'actualité de l'environnement. Et on vous retrouve tous les lundis de 2016 avec la science de l'environnement, la science de l'écologie. Merci beaucoup Hervé, merci à vous et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le remède à la catastrophe pétrolière Deepwater Horizon aurait été au final pire que le mal. Voilà la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs américains qui ont démontré que les produits chimiques déversés dans le golfe du Mexique pour disperser le pétrole en 2010 ont détruit au passage les bactéries naturellement dévoreuses de pétrole. 7 millions de litres de produits dispersants avaient en effet été largués pour dégrader partiellement le pétrole en surface, mais sans les bactéries pour terminer le travail, aujourd'hui c'est une huile noire et lourde qui tapisse les fonds marins de cette région. Le départ du robot InSight de la NASA sur Mars, initialement prévu début 2016, est repoussé d'au moins 2 ans, en cause une fuite décelée sur un outil de mesure des mouvements sismiques fourni par l'Agence spatiale française. Et n'étant pas hermétique, la machine est donc incapable de résister aux conditions extrêmes de Mars. Le robot devra donc attendre la réparation de l'instrument pour partir. Prochaine fenêtre de lancement avec un alignement favorable des planètes prévu pour mi-2018. Et puis la découverte d'une nouvelle espèce de requin qui brille dans le noir, identifié dans les eaux profondes du Pacifique entre 800 et 1400 mètres par des chercheurs américains. Ce petit squale de 30 à 50 cm entièrement noir présente la particularité d'être bioluminescent. Cette singularité physique lui permet de mieux se camoufler pour échapper à ses prédateurs et mieux fondre sur ses proies. Une drôle d'apparence qui lui vaut le curieux surnom scientifique de Ninja Lanterne Shark. Sa robe noire anthracite rappelant aux chercheurs le costume des ninjas japonais est à découvrir d'ailleurs en photo sur le Facebook et le Twitter de la tête au carré.